C'est cette apologie du no pain no gain. On est vraiment dans une société et dans des bulles sociales, je pense, qui valorisent absolument le faire. On est validé et aimé par ce qu'on fait, parce qu'on performe. Notre corps, en fait, au fil du chemin, nous envoie des plumes, puis il nous envoie des cailloux, puis il nous envoie des murs. Et c'est à quel moment on choisit de vraiment réagir et s'interroger sur à quel point ce qu'on lui demande, la manière dont on l'accompagne pour qu'il progresse, pour qu'il se renforce. Et c'est vraiment cette idée que on fonctionne beaucoup mieux à la carotte et beaucoup plus longtemps qu'au bâton. On est en permanence dans la comparaison. En fait, on est toujours dans cette énergie, dans cette narration de « je ne suis pas assez, je ne suis pas encore validée, je ne suis pas encore légitime », etc. Malgré qu'on n'écoute pas le corps nous fera écouter ce qu'il a à nous dire.
Si tu ne planifies pas ton repos, ton corps va le faire pour toi à un moment qui ne sera pas forcément opportun.
Votre corps est votre guide et qu'il sait s'adapter si vous lui donnez les bonnes conditions.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti!
Ambition, engagement, responsabilité, présence, performance. Autour de moi, beaucoup de personnes veulent tout donner pour leur travail, pour leurs relations, leur corps, leur famille, leurs projets. Ces personnes avancent, cochent des cases, tiennent bon, mais à l'intérieur, quelque chose s'épuise. La fatigue s'installe, le rythme est soutenu, le stress devient permanent, leur corps leur parle. Malgré tout, elles se disent que ralentir, ce serait échouer. Alors si c'est ce que vous vivez en ce moment même, cet épisode va probablement vous parler. Ensemble, on va s'interroger sur la manière d'atteindre ses objectifs de vie sans se sacrifier, ni physiquement, ni mentalement. On abordera la performance sportive, les niveaux d'énergie, de stress, ainsi que les bonnes habitudes pour tenir dans la durée. J'accueille aujourd'hui notre invitée du jour pour nous guider tout au long de cet épisode. Bonjour Elsa de Grugilly.
Bonjour Noémie.
Enchantée, merci de venir ici dans notre studio. Alors Elsa, tu es naturopathe, professeure de yoga dans les Landes, formée au Sénato. Tu vas peut-être être surprise par ma question parce que je ne l'ai vraiment posée à personne encore. Est-ce que tu écoutes le podcast Healthwise le dimanche?
Alors, peut-être pas le dimanche, mais effectivement, il fait partie de mes favoris et de mes incontournables. Donc, ouais, je me régale avec les invités qui viennent ici, c'est super intéressant.
Bah, je suis contente aussi que tu puisses voir l'envers du décor.
C'est super chouette de visiter les bureaux, de visiter l'endroit, les backstage, mais surtout de rencontrer en fait tous les passionnés qui sont à l'origine de tout ça et ça donne encore plus de sens, donc c'est très chouette.
Trop bien. Eh ben, on a quand même pas mal discuté avant d'en arriver là, avant d'arriver toutes les deux dans cet épisode. Je me suis rendu compte que dans ta pratique, tu étais supervisée par un médecin et que tu reçois majoritairement des femmes entre 30 et 40 ans. Tu m'as apporté ce sujet parce que tu voyais que la thématique revenait souvent dans tes consultations. Et c'est vrai que ça a tout de suite résonné en moi parce que avec mes observations et moi-même, ayant 31 ans, envie d'être une superwoman dans tous les domaines, ici, dans mon travail, dans mon hobby, avec mon partenaire, ma famille, mes amis, bah, je me rends compte que mon corps suit pas toujours ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai planifié de faire, et que j'ai envie de faire les choses à fond. Personnellement, j'aurais pas pensé que cette motivation pouvait aussi devenir un sujet d'épisode de podcast santé. Mais nous voilà aujourd'hui. Qu'est-ce qui, toi, t'as le plus alerté en consultation pour te dire « il faut vraiment que j'en parle, il faut vraiment que les gens écoutent ».
Ouais, alors je reçois effectivement essentiellement des femmes de 30, 40 ans, mais c'est avant tout des sportives ou des athlètes qui se fixent des objectifs, des défis sportifs ou que c'est leur métier et du coup il y a cette injonction à la performance. Mais ce que j'observais en filigrane, c'est vraiment cette injonction du no pain no gain, cette injonction du être parfaite à tous les niveaux sur un plan perso, familial, professionnel et s'ajouter cette composante sportive de vouloir performer.
Se surpasser même.
Se surpasser dans le dépassement de soi en permanence, mais ça pourrait tenir et mon objectif, ce n'est pas de les accompagner vers arrêter l'entraînement, mais c'est vraiment de leur permettre de prendre conscience que pour performer, il faut revenir à une relation d'allié avec son corps. Et bien souvent, je reçois ces femmes qui sont soit au stade de la blessure, de l'épuisement, du burn-out. Il y a vraiment un moment où le corps a été dissocié et on se rend compte que ces femmes-là fonctionnent selon un mental, selon cette stratégie de passer en force et de se couper de son fonctionnement, de sa cyclicité. On y reviendra très certainement. Mais j'aime beaucoup la phrase de Manon d'Auvergne qui est kinésithérapeute et doctorante en sciences du sport, qui nous dit que notre corps, en fait, au fil du chemin, nous envoie des plumes, puis il nous envoie des cailloux, puis il nous envoie des murs. Et c'est à quel moment on choisit de vraiment réagir et s'interroger sur à quel point ce qu'on lui demande, la manière dont on l'accompagne pour qu'il progresse, pour qu'il se renforce, est juste et pertinente. Et c'est vraiment cette idée que on fonctionne beaucoup mieux à la carotte et beaucoup plus longtemps qu'au bâton. Et je pense qu'on a valorisé, on est dans une société qui valorise le no pain no gain, qui valorise le fait de devoir souffrir pour réussir, de devoir se sacrifier pour réussir, il faut que ça soit dur, il y a vraiment ces croyances-là. Et donc on est dans cette contrainte plutôt que dans cette course à la compréhension de nos corps.
Et notre corps, il dit quoi pour qu'on puisse sentir ses plumes, ses cailloux et ce mur? Ça se manifeste comme une souffrance, tu dis, mais cette souffrance, elle est où? Elle fait quoi?
Ouais, du coup, le génie du corps, il nous envoie donc des plumes, des cailloux ou des murs, et c'est à quel moment on réagit. Et donc, c'est des plus ou moins gros symptômes. En somme, ça va passer par, que ce soit des troubles digestifs, des troubles de l'humeur, l'anxiété, la dépression, la démotivation, que ça soit très concrètement des troubles du sommeil, de l'acné, des cycles qui deviennent plus longs, plus anarchique, plus inflammatoire, et des symptômes plus gros, ça serait au stade de des maladies auto-immunes, que ça soit l'endométriose, que ça soit tout ce qui est Hashimoto. Et en fait, à chaque étape, si on est bien attentif, on voit qu'il y a des petits signaux qu'on met sous le tapis, qu'on ne veut pas forcément observer, qui surgissent. Mais plus on les ignore, plus ils deviennent gros, importants, et plus en fait, on en vient à la fracture de fatigue et la fracture qui nous immobilise un petit peu de force. C'est le grand classique chez les athlètes et les sportifs que j'ai, mais c'est à peu près ça.
En fait, tout ce que tu viens de me citer là, c'est aussi des symptômes qu'on aborde séparément dans certains de nos épisodes du podcast, aussi sur les réseaux sociaux, notamment sous l'angle de la micronutrition, surtout chez Sunday, parce qu'on sait que ça peut faire partie des solutions. Mais c'est vrai qu'on aborde rarement les causes potentielles de ces dérèglements, de ces symptômes. On a l'impression, oui, qu'il existe une injonction de devoir tout donner, tout le temps, partout, pour tout le monde. Mais selon toi, elle vient d'où, cette injonction de performance à 100% dans tous les domaines?
Je pense que c'est un petit peu comme je l'ai dit précédemment, c'est cette apologie du no pain no gain. On est vraiment dans une société et dans des bulles sociales, je pense, qui valorisent absolument le faire. On est validé et aimé par ce qu'on fait, parce qu'on performe, par les actions, parce que on court plus vite que les autres, parce que on en fait plus, parce que on gagne plus, etc. Donc on s'est vraiment réduit dans cette validation par le faire. Et cette comparaison omniprésente à travers les réseaux sociaux et cette exposition permanente de se comparer, voir que les autres ont des ambitions de dingue, réussissent, on voit que les aspects absolument parfaits de leur vie, donc on se dit qu'on n'est pas assez ambitieux, qu'on pourrait faire plus, que lui il court un marathon, donc en fait on pourrait se mettre au triathlon facilement, et en fait on en oublie la chose absolument essentielle et que je réapprends chaque fois à mes clientes en premier, c'est qu'est-ce qui fait vraiment sens pour nous et quelle est notre identité, et qu'on ne sera jamais plus validé et aligné que dès lors qu'on sera pleinement ancré dans notre identité et qu'on préparera un marathon, un trail, des compétitions quelconques que dès lors que ça découlera de notre identité, davantage que si c'est pour prouver quoi que ce soit ou pour être validé sur le plan du faire.
Cette envie d'avoir toujours plus, c'est un peu comme l'argent aussi, d'avoir toujours envie d'avoir plus, même si on se rend pas compte de ce qu'on a déjà.
Ouais, c'est j'ai une amie justement qui est thérapeute somatique, qui est brillante et elle m'a donné cette métaphore qui est très intéressante. C'est un petit peu le syndrome du milliardaire déprimé qui court après cette somme d'argent et un petit peu cette vie-là et qui une fois qu'il est dans ce contexte de réussite après laquelle il courait. Il n'a même plus la capacité de se rendre compte et d'être heureux pour tout ce qu'il a. Et en parallèle avec mes clientes, c'est ce que je leur dis. Apprenez d'abord à regarder dans le rétro toutes les choses exceptionnelles pour lesquelles vous avez déjà des raisons d'être heureuse, ressentir de la gratitude pour dès aujourd'hui. Et toutes les raisons pour lesquelles vous avez raison de pouvoir vous faire confiance et de croire en vous, en fait. Parce que si on est en permanence dans la comparaison, en fait, on est toujours dans cette énergie, dans cette narration de « je ne suis pas assez, je ne suis pas encore validée, je ne suis pas encore légitime », etc. Là où, en fait, si on revient dans dans cette situation-là, j'ai déjà réussi, je peux me faire confiance comme ci, comme ça, en fait, ça donne une autre appréhension des événements. Et on y reviendra, mais tout ça, c'est juste un prétexte pour moduler un petit peu aussi ce stress chronique. Et plus on est dans cette comparaison et dans cette énergie de manque, plus on vient créer un décalage entre ce qui est et ce qu'on aimerait qu'il soit. Et ce décalage-là, ça crée un stress qui a en fait un réel impact au niveau physiologique.
De pas voir le chemin, de pas savoir où on va, de pas savoir où il faut aller.
Ouais. Même.
C'est vrai que c'est ça qui rend stressant. J'ai l'impression qu'il y a quand même une différence entre le fait d'avoir des projets, de l'ambition et le fait d'en faire trop. On sait pas trop sur quel pied danser. Comment toi tu pourrais savoir ou définir une ambition qui est saine et le fait de tenir coûte que coûte pour continuer.
C'est super intéressant comme question et ça résonne avec vraiment cette démarche que j'ai de vouloir vraiment accompagner chaque personne de manière systémique dans le sens où une bonne intention, ambition, qu'elle soit saine ou qu'elle rentre dans c'est trop, on va rentrer dans l'épuisement, etc. En fait, ça appartient à chacun. Et c'est pas du tout à moi de dire là c'est trop, là c'est pas assez. En fait, la réalité des choses, c'est qu'on a tous déjà bagage génétique inégal. On a tous une capacité à s'adapter au stress de manière inégale. Et en fait, la seule réalité des choses, c'est que le corps va respecter un timing pour dans la contrainte à laquelle il fait face. Il y a plusieurs choses. C'est que une ambition est saine au regard de comment votre corps va venir s'y adapter en fonction des paramètres que vous lui donnez, l'environnement et les conditions que vous lui donnez. Si à la base vous avez des fragilités au niveau génétique, déjà des troubles digestifs, une barrière pas top, des épisodes allergiques, de l'asthme dans l'enfance, etc. Bon, on peut déjà discerner que au niveau digestif, au niveau des barrières et de l'écosystème intestinal, il va y avoir des fragilités. Si à ça vous ajoutez un objectif de réaliser un triathlon et que vous avez des enfants plus un métier qui vous demande énormément de ressources cognitives, etc. Mais qu'à la base, et que vous n'adaptez pas ni votre sommeil, ni votre récupération, ni votre alimentation, etc., et que vous passez tout au mental, je suis pas sûre que ça ira très loin. Dans le sens que on a tous un terrain de base, des fragilités de base, et notre corps va venir s'y adapter différemment. Donc, des ambitions qui sont saines pour une personne vont être déjà extrême pour d'autres personnes. Et je pense que mettre le corps dans les conditions optimales au regard de ses fragilités de départ ou de son potentiel de départ, ben c'est beaucoup plus intéressant que se fixer et se brider en amont de « non, je peux pas réaliser ça ». Techniquement, on peut. C'est juste respecter une progressivité et mettre toutes les conditions en place pour.
Est-ce que c'est de la tolérance ou de l'adaptabilité du corps?
Je pense que le corps est extrêmement plastique, extrêmement résilient, et que ça soit le corps, que ça soit le cerveau qui est extrêmement plastique, et de la même manière qu'on a tout ce processus de régénération, de réparation en permanence, dès lors qu'on induit un nouveau stress pour le corps, il va venir s'y adapter, il va venir apprendre, progresser, etc. Mais de la même manière que le cerveau, dès lors qu'on lui propose de nouvelles stimulations, de nouveaux challenges, de nouveaux stress, en fait, il va venir développer des... il va venir activer de nouvelles aires cognitives et pour nous permettre de s'adapter à ce nouveau challenge. Donc, je dirais, c'est de l'adaptabilité, c'est de la plasticité, c'est de la résilience aussi.
On va aller un petit peu plus dans le détail parce que j'ai fait un peu de recherche et je me suis noté plusieurs mots-clés qui reviennent souvent chez les femmes actives, mais aussi chez les hommes qui cherchent la performance avant tout. Et j'aimerais que tu me dises un peu les coûts ou les conséquences invisibles que ces dynamiques peuvent apporter. À la fois sur le mental comme sur le physique, c'est toi qui vois. Le premier truc qui te passe par la tête quand je te donne ces mots-clés, ces principes-là. Et comme ça, on voit un petit peu, peut-être un schéma, quelque chose qu'on pourra ressortir derrière. Le premier mot que je me suis noté en parlant de stress, en parlant d'adaptabilité, etc., c'est la charge mentale.
Ouais, je dirais le stress chronique.
L'auto-exigence ou le perfectionnisme? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
L'exigence et le perfectionnisme, c'est vraiment contextuel. Alors, on reprochera jamais à un chirurgien d'être exigeant et perfectionniste. De la même manière, quelqu'un pour qui son travail a énormément de sens, il va travailler beaucoup, il sera exigeant, il sera perfectionniste. Le perfectionnisme et l'exigence, ça peut être délétère dans la situation où... le travail que tu fournis et les objectifs que tu cherches à atteindre n'impliquent pas que toi. Et que potentiellement, d'autres personnes sont impliquées pour aller chercher les mêmes objectifs que toi. Mais potentiellement, ces personnes-là n'ont pas les mêmes niveaux d'exigence et le même niveau de perfectionnisme que toi. Et du coup, ce décalage entre pouvoir atteindre tes objectifs parce que ça ne t'appartient qu'à toi et avoir toutes ces autres personnes qui potentiellement travaillent moins, ont moins d'exigence, etc., il y a potentiellement un basculement qui va se faire et cette personne qui est extrêmement perfectionniste, exigeante, elle va tomber dans une espèce d'hyper-contrôle et elle va se mettre à essayer de combler le manquement de travail des autres pour aller chercher des objectifs qui, elle, la portent. Et en fait, on tombe dans cet hyper-contrôle, on se retrouve avec cette personne qui va venir faire des miracles, passer après tout le monde, peaufiner le travail des autres pour essayer de combler en permanence. Et c'est juste parce qu'elle n'est pas sur le même niveau d'exigence et de perfectionnisme que les autres. Du coup, dans cette situation, on peut se rendre compte que ça crée un stress qui est démesuré et bien sûr, l'amener complètement dans le mur, dans le sens où elle est en permanence dans une situation de stress entre ce qu'elle aimerait qu'il soit et ce qui est vraiment. Et du coup, elle va se mettre à délivrer un travail pour 3 personnes au détriment de sa santé. Et elle-même, à l'intérieur, elle va avoir cette confrontation entre cette partie d'elle qui se dit « il faut que je me repose » et cette partie d'elle qui se dit « non, il faut que je sois perfectionniste, enfin, il faut que mon travail il soit parfait, il faut que les objectifs ils soient atteints en temps et en heure, coûte que coûte ». Et donc là, on va tomber dans l'épuisement, le stress chronique, etc.
Et les mannequins, les acteurs, les gens qui sont vraiment tout seuls, qui sont portés par eux-mêmes, qui n'ont pas d'équipe, ce genre de choses, qui sont quand même dans l'exigence et le perfectionnisme, comment ils font?
Je pense que le perfectionnisme et l'exigence, il est extrêmement, ça peut être sain et c'est potentiellement un super pouvoir dès lors que le travail que l'on fait, il a du sens et que les conditions elles soient réunies pour qu'on atteigne nos objectifs.
Donc, c'est, on n'a pas les conditions pour soi-même, pour qu'on puisse pouvoir donner de soi et de son travail, ça ne marche pas.
Ouais.
Le prochain, c'est la tension, la pression.
Alors, somatisation, respiration courte, hyperventilation.
Mais ça, c'est vraiment les conséquences directes de la tension. Le bruxisme aussi, on n'en parle pas souvent.
De la... ouais, un mode d'hypervigilance et de stress chronique.
Hmm. Justement, le prochain, c'est hypercontrôle, difficulté à lâcher prise.
Anxiété, troubles digestifs, de la même manière, somatisation et un système en hypervigilance orthosympathique au maximum.
Ensuite, un autre type d'hypercontrôle, l'hypercontrôle alimentaire.
Très intéressant.
C'est pas l'orthodoxie, c'est comme ça qu'on appelle ça.
L'orthorexie, on appelle ça communément. Intéressant, c'est ça traduit une situation de stress chronique. Soit on peut contrôler ce qui sort à travers l'obsession du sport, soit on peut contrôler ce qui rentre à travers un rapport troublé à l'alimentation. Donc, on va en venir à avoir peur de certains aliments. Et là, la conséquence directe, ça va être les troubles digestifs, le fait de plus pouvoir rien manger parce qu'on a peur de certains aliments. Et donc,
il y a des carences, du coup, j'imagine.
Certainement des carences, mais avant tout, on va venir un petit peu somatiser cette anxiété, cette peur de manger certains aliments qu'on va venir labelliser comme bons ou mauvais en soi.
Ensuite, c'est la surstimulation, que ce soit au travail, avec les écrans, les notifications, les infos.
Épuisement, fatigue chronique, manque de concentration, manque de focus.
Moi, j'ai manque de sommeil, du coup, quand...
Et troubles du sommeil.
Beaucoup de choses qui se passent dans la journée. On doit faire du multitâche tout de suite. C'est dur de revenir au calme.
Ouais, cette hypervigilance, ce trouble du sommeil, mais en fait, qui a aussi un impact sur le corps. On somatise aussi, mais ouais, exactement.
Bah justement, c'est quoi les conséquences de ne pas écouter assez ces besoins du corps?
Bah, de la même manière, malgré qu'on n'écoute pas le corps, le corps nous fera écouter ce qu'il a à nous dire. Et ça démarre par... les symptômes seront petits, basse intensité au début, et ils vont s'intensifier au fur et à mesure et réapparaître sous des formes détournées et des symptômes plus importants par la suite, quoi.
Quand on veut tout donner et qu'on travaille beaucoup, par exemple, on manque peut-être de récupération ou le repos, il est culpabilisé. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquence à ça?
Blessure de fatigue, mauvaise cicatrisation, stress chronique, dérèglement aussi au niveau de la faim, prise de poids et tout le métabolisme qui va venir se ralentir.
J'ai vu une vidéo avec une influ qui disait si tu ne planifies pas ton repos, ton corps va le faire pour toi à un moment qui ne sera pas forcément opportun.
Ouais.
Donc, il faut vraiment ne pas oublier qu'il faut se reposer et le mettre dans son planning de marathon, le mettre dans son planning de travail, que c'est le moment de lâcher prise, en fait.
Ouais, ah mais 100%. Et c'est le levier numéro un pour tout le monde, mais pour mes clientes, c'est exactement ce que je leur dis. Le sport, dans les compétitions, dans la prépa physique, c'est extrêmement important, la technique, etc., pour progresser. Mais en fait, la stratégie de récupération, c'est une partie... extrêmement importante, essentielle et incontournable pour performer, pour aller plus loin, etc. Et si le système il se met pas en mode parasympathique récupération et donc du coup cicatrisation et donc du coup on recrée de nouvelles fibres musculaires, de nouveaux circuits neuronaux, de nouveaux chemins corporels, etc. Il y aura pas d'adaptation, il y aura pas de progression, il y aura pas d'amélioration des performances et de ce qu'on va chercher.
Se dire de tenir coûte que coûte.
Usine à burn-out.
Ah ouais.
Usine à burn-out et épuisement profond.
C'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver aux femmes comme aux hommes. Donc je voulais vraiment qu'on puisse voir toutes les conséquences qu'on pouvait avoir aussi physiologiquement. Bien sûr, on n'a pas été dans le détail parce que sinon on va passer vraiment une demi-heure à parler que de ça. Je voulais surtout aussi parler un petit peu plus des femmes parce que je me demande aussi pourquoi toute cette charge mentale, par exemple, ou toutes les choses qu'on a citées, ça arrive plus souvent, on a l'impression, aux femmes. Est-ce que c'est parce qu'elles sont sensibles physiquement face au stress chronique ou parce que les hormones fluctuent plus? Pourquoi ça touche principalement les femmes?
Très intéressant. Je sais pas si les femmes sont plus sensibles au stress chronique que les hommes, mais je pense simplement que elles fonctionnent selon un mode opératoire qui n'est pas le leur, et elles fonctionnent dans une société qui valorise un mode opératoire qui n'est pas le leur, dans le sens où on est dans une société qui valorise ce fonctionnement linéaire. J'ai des clientes qui sont dans le domaine militaire, et là c'est poussé à l'extrême, mais les athlètes également, le fait d'avoir les règles, le fait d'avoir un cycle, c'est quelque chose qui est rejeté, qui est fragilisant, qui est perçu comme quelque chose qui va retarder. Et je pense que les femmes ne sont pas forcément plus sensibles, mais par contre, il y a ce décalage plus important parce qu'on ne leur a jamais appris à quel point leur cyclicité était potentiellement leur super pouvoir et ce qui allait les aider à atteindre leurs objectifs de manière plus durable, dans le sens où notre cyclicité, la fluctuation de nos hormones, de nos besoins, elle est réelle. Il s'agit de la comprendre, de la connaître, de savoir comment se nourrir en conséquence, à quel moment, quelle stratégie, etc., autour potentiellement des règles, etc. Mais il y a vraiment une zone de flou, une zone d'inconnu desquelles on ne parle pas. Et donc, je pense que ça crée des situations dramatiques sur le corps des femmes qui se retrouvent à performer ou à avancer comme des hommes, parce que c'est le modèle qui est valorisé, qui est mis sur le devant de la scène.
Le modèle linéaire.
Le modèle linéaire, exactement. Là où toutes les femmes gagnent à comprendre leur fonctionnement, leur cyclicité, et plus elles s'approprient leur phase de récupération, de le moment où elles peuvent, où elles sont, où tous les facteurs sont réunis pour qu'elles performent, pour qu'elles soient au maximum, etc. Ce stress un petit peu chronique et cette sensibilité au stress, elle va être aussi largement réduite.
On essaye un peu d'en parler, en tout cas sur nos réseaux, parfois dans le podcast aussi, que justement pendant le cycle féminin, on a des moments où on va être super performante, on va pouvoir faire un sport qui va nous demander plus d'intensité, et d'autres moments où on va devoir adapter. Donc c'est vrai que non seulement il faut s'adapter à soi, avec ses besoins personnels, son terrain, etc., mais aussi s'adapter à son cycle, en fait. C'est une combinaison qui n'est pas facile à trouver aussi. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut juste écouter son corps aussi.
Ouais, et c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi, mon approche, c'est pas de tomber dans une... à tel moment du cycle, il faut faire tel type de sport, tel sport est à éviter... potentiellement toutes ces choses qu'on a entendues autour de pendant les règles il faut pas faire de sport parce que il y a plus de risques de blessures, etc. Moi, c'est vraiment pas ma position, c'est plus se dire que chaque femme a un cycle qui lui est propre, et il s'agit de le comprendre, de se connaître et d'adapter le volume et l'intensité de notre sport qui nous est propre, qui nous fait plaisir, que ça soit l'aerox, que ça soit le trail, que ça soit le triathlon, que ça soit la course à pied, etc., etc., ou alors le yoga et le pilates, si c'est le yoga et le pilates qui vous parlent, d'adapter en fait l'intensité au fil du cycle, mais plus au regard de nos besoins et nos sensations qui nous sont propres, plus qu'au regard d'une nouvelle injonction de un cycle, quatre phases, première phase, on mange ça, on fait tel sport, etc. On fait en fait, on rajoute un petit peu de kinésiophobie, on rajoute un petit peu de contrôle, de règles, etc. Là où il n'y a pas forcément besoin. Mais pour revenir un petit peu à la question d'avant, est-ce que les femmes sont plus sensibles ? Elles ne sont pas forcément plus sensibles, mais par contre, dès qu'elles sont en situation de stress, leur corps les y informe très facilement. Et souvent, la première chose qui saute et qui se met à dysfonctionner, c'est le cycle. Et comme on est cyclique au fil du mois, en fait, on va avoir un impact sur l'ovulation, on va avoir un impact sur potentiellement le avant. Est-ce que les SPM ils sont plus ou moins importants ou pas? Est-ce que les règles elles sont plus ou moins abondantes ou pas? Est-ce que les règles elles disparaissent? Est-ce qu'il y a des saignements au cours du cycle, etc. Et donc en fait tout ça, ça témoigne de à quel point le corps a été stressé pendant les règles. Est-ce qu'on a de l'acné hormonal qui apparaît, etc. Et en fait tout ça, c'est des témoins supplémentaires que les hommes n'ont pas. Mais les hommes, ils courent de la même manière au pied du mur en s'écoutant encore moins, quoi.
J'ai l'impression que quand on est stressé, on parle souvent du temps, de la gestion du temps, de se dire j'ai pas assez de temps, je dois faire ça demain, j'ai ça et ça, mais on parle peu de la gestion de l'énergie, alors que l'énergie, on doit avoir des jauges différentes, principalement par le terrain, comme tu disais avant, qui se recharge plus ou moins vite. On a aussi des sources d'énergie qui peuvent être différentes, que ce soit par le sport, le physique, le mental, le relationnel, et d'autres piliers. J'aimerais un peu qu'on regarde comment on peut préserver cette énergie-là, justement pour pas s'essouffler, pour pas s'épuiser, pouvoir durer dans le temps, avec peut-être des choses qui sont un peu plus concrètes. Je savais pas trop par quoi commencer et je me suis dit qu'est-ce que moi je fais pour préserver mon énergie, et j'aimerais bien que tu me dises si c'est bien, si t'as envie de rajouter des choses dans ces domaines-là, ou justement de me dire si c'est pas bon, Noémie, il faudrait que tu fasses attention. ça te va ?
Ouais, génial.
Première chose que je me dis, et c'est la chose que je travaille le plus pour moi-même, pour éviter les fuites d'énergie, de dire non et de mettre des limites, d'essayer de déléguer. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce que j'aime bien me dire que j'y vais à fond, je sais ce que je fais et j'y vais. Mais c'est vrai que ça peut être énergivore énormément.
Ouais, super intéressant. C'est cette logique que je partage tout le temps et qui est commune à la naturopathie. L'important, c'est de se nourrir sur vraiment tous les plans et que, effectivement, la qualité de la nourriture est importante, la qualité des relations humaines, le plan énergétique, est-ce qu'on est en permanence sur les écrans ou est-ce qu'on s'expose à la nature, etc. Donc le plan mental, est-ce qu'on est stimulé, le relationnel, l'environnement, etc. Super intéressant. Et apprendre à dire non, c'est aussi prendre conscience aussi de nos limites, de notre valeur aussi, changer ce mode de je fais plaisir à tout le monde pour j'apprends en fait ce qui me nourrit et ce qui me draine, c'est plutôt très 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 sain. Ouais.
Ensuite, c'est un peu bizarre. Des fois, j'imagine ma vie en saison pour pouvoir prioriser certaines choses plutôt que d'autres dans des phases où je me laisse le temps, où il peut y avoir des transitions, parce que je pense que aussi on a du mal à savoir quoi choisir, et parfois on a besoin de plus de temps aussi dans certains domaines, et du coup je me dis pourquoi pas, voilà, par saison je sais à peu près ce que j'ai envie de faire et là où je donne la priorité.
Au fil de l'année, tu découpes.
Ouais. Je sais que par exemple l'été, c'est le moment où ce sera les vacances, où je vais voir des amis, je vais voir ma famille. Donc, je sais que pendant l'été, je vais miser sur plutôt mes relations sociales, plutôt la détente, etc. Et où je me dis, il va falloir que je trouve des moyens de ralentir au travail. Il va falloir que je m'organise différemment, entre guillemets. Donc ça, par exemple, ça permet de prioriser, de se dire, non, mais mets ça de côté, parce que là, pour le moment, C'est ce domaine-là.
Ah, c'est intéressant. C'est intéressant si, du coup, les phases, j'imagine, de plus d'activité, tu y intègres quand même un petit peu des phases de repos et des phases de où tu peux vraiment récupérer. Parce que si tu me dis que toute l'année, c'est en mode prépa physique à fond, ambition pro maximum, à fond, mais qu'en fait, tu as 2 mois pour déconnecter, j'imagine que quand tu arrives aux 2 mois pour déconnecter, le repos qu'il va falloir, il va être très, très important, plus que si au quotidien, en fait, tu respectes ce rythme en saison de ton corps aussi.
Du coup, de vraiment inclure beaucoup plus d'équilibre dans le repos, les objectifs, plus régulièrement que par saison.
Ouais. J'imagine.
Merci.
Mais à individualiser vraiment à chaque fois aussi, hein. À chaque personne, son mode de fonctionnement qui va bien, quoi.
Pour l'énergie aussi, bah, du coup, on parlait déjà de repos, mais le repos, ça se passe aussi le soir. Et du coup, pour moi, les moments de calme, le soir, c'est hyper important. Donc, petite tisane au lit, dans la semaine, vraiment, pour pouvoir se déconnecter des écrans, des informations, et de pouvoir s'endormir plus facilement.
Ouais, magnifique. S'il y a vraiment un triptyque, mastication, hydratation, sommeil, tout miser sur le sommeil. Mastication ?
Ouais.
Vraiment venir mastiquer.
De prendre le temps.
De mastiquer, d'avaler vraiment quand les aliments sont réduits en bouillie. C'est vraiment boire ce qu'on mange et manger ce qu'on boit. Et là, de là, il y a tellement de problèmes qui sont déjà résolus pour la digestion, pour vraiment prendre le temps de manger, de mastiquer. Je pense que je le mettrai en haut de toute la pyramide, et c'est l'action numéro 1 que j'intègre dans tous les accompagnements. Mais mastiquer pour la production enzymatique, pour la bonne digestion, pour shifter son organisme sur un mode parasympathique de récupération. On peut pas digérer des protéines ou quoi que ce soit si on est en train de se préparer à fuir un prédateur et que tout notre organisme, il est stressé, tendu, et que du coup, on est sur un mode plus de lutte que de récupération.
Ensuite, je suis pas encore très bonne élève, mais je fais attention à ma respiration.
Ah ouais.
Parce que je me rends compte parfois que je respire vite. Aucune raison. Juste respire vite. Et là, je me dis, oh là là, il faut que je prenne le temps. Donc, je redescends. Je fais attention à bien expirer, bien inspirer. J'essaye, mais je suis pas encore très convaincue, de faire de la cohérence cardiaque.
OK.
Aussi. Mais c'est vrai que tout de suite, je remarque quand je pense à quelque chose, je peux avoir le souffle court parce que ça me demande de l'énergie, quoi.
Et avant toute chose, la respiration, c'est une de mes parties préférées aussi. Mais avant n'importe quel exercice de respiration, etc., intégrer la respiration uniquement par le nez dans votre quotidien. Que par le nez. Le nez, c'est l'organe de la respiration. C'est l'organe qui vient filtrer l'air, qui vient permettre une vasodilatation, parce que ça crée cet acide nitrique qui va venir créer cette vasodilatation, qui va venir permettre une meilleure oxygénation du corps, du cerveau, etc. Donc, une meilleure récupération. Et donc, idéalement, une respiration par le nez la nuit aussi. Je reçois des femmes qui font de l'apnée du sommeil, des ronflements, etc. Et du coup, on se retrouve avec des phases de sommeil, du sommeil profond qui est beaucoup moins important, beaucoup moins réparateur. Donc, on se retrouve avec des femmes qui se réveillent fatiguées le matin, qui récupèrent pas. Et sachant que on est en train de, enfin qu'elles ont ces objectifs physiques, s'il n'y a pas de cicatrisation et de réparation du corps cellulaire, etc., qui s'opère pendant le sommeil profond, la performance sera moins intéressante et l'expérience sera moins intéressante pour ces femmes-là. Donc vraiment, forcez-vous vraiment, s'il y a une chose au quotidien, respirer par le nez. Et par le nez, on induit naturellement une respiration également ventrale et beaucoup moins une hyperventilation plutôt haute qui peut se faire par la bouche. Et en fait, on respire beaucoup, mais mal. C'est vraiment ce credo de moins respirer, mais mieux.
Ensuite, je sais que pendant mes règles, je me force à rien. J'écoute seulement ce que j'ai envie de faire.
Ouais.
Parce que c'est là où je m'épuise beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que des fois on a mis des plans, on a prévu des choses et au final ça tombe pendant les règles. J'essaie de pas forcément me forcer si j'ai pas besoin de faire les choses la semaine d'après, si possible, justement pour pouvoir m'écouter à ce moment-là.
Si tu vois que ce repos pendant les règles permet de repartir encore mieux après, garde-le. C'est hyper salvateur.
Ensuite, c'est par rapport à l'alimentation, je fais attention à ne pas être en hypoglycémie. Et à bien manger suffisamment de protéines, parce que je sais que j'ai tendance à pas en manger suffisamment et en fait quand même manger des protéines, ça fait une différence sur l'énergie, dans la durée de la journée aussi, et tout ce qui est autour des fringales aussi, justement de rajouter du sucre rapide derrière parce que on n'a pas mangé assez de protéines ou de quantité aussi de nourriture. Donc je fais attention attention à bien ajouter des protéines dans la journée, et si je ne l'ai pas fait le midi, alors le faire le soir.
Ouais, je vais te rejoindre à 100%. Je pense qu'aujourd'hui c'est admis, je vois le jour et la nuit dès lors qu'on rétablit les besoins optimaux au niveau nutritionnel chez chaque personne. Encore une fois, c'est 100% à individualiser. Ne copiez pas des régimes, des diètes toutes faites sur Instagram, mais si toi tu vois que tu observes que ça te régule, que ça t'équilibre au fil de la journée, super intéressant. Mais alimentation à individualiser, mais il y a quand même des grandes règles, suffisamment de protéines, des glucides plutôt complexes, à voir au fur et à mesure au niveau de la stratégie autour des entraînements, etc. Mais je pense que tu es dans le juste, ouais.
Ensuite, je travaille chez Sunnet, donc forcément j'ai mes basiques, vitamines, minéraux, mais je prends aussi des plantes adaptogènes. Et quand je suis en période de stress, je fais attention à mes mitochondries. Je ne sais pas si tu connais ce complexe-là.
Non, je ne l'ai pas. J'en ai pas pris connaissance, ouais.
Et sinon, quand je sais que j'ai besoin d'un gros coup de boost en 20 minutes, vu que je ne bois pas forcément beaucoup de café, j'utilise le phyto-énergie. C'est à base de café vert et de guarana. Et ça m'aide bien. C'est de la micronutrition. C'est encore une fois des plantes où il faut voir si ça marche pour nous. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément pour les coups de boost, pour l'énergie. Je trouve que ça m'aide pas mal jusque-là.
Ouais, super. Les petits coups de boost comme ça, naturels, c'est chouette. J'aime bien. Le café, c'est un gros sujet. Bien souvent, on cherche un petit peu des alternatives, etc. pour limiter. Tout ce qui est en phyto, tisane de gingembre, curcuma, c'est chouette. Même en phyto, tout ce qui est petites gouttes de menthe poivrée après le repas, ça booste un petit peu la digestion. C'est chouette aussi. Toute la partie micronutrition, encore une fois, à individualiser, et ça reste de la complémentation. Donc une fois qu'on a mis en place toute l'hygiène de vie, toute une nutrition de manière optimale, ça vient vraiment en dernier plan. Ou alors, si vraiment il y a une symptomatologie un petit peu trop gênante au quotidien, on peut venir alléger en première intention. Mais l'idée, c'est de revenir vraiment à la source de la source de la source et de pas multiplier les compléments. Je partirai sur ça.
Et la base pour toi, pour l'énergie, ce serait quoi?
La base pour moi, pour l'énergie, c'est...
Pour tout le monde.
Au niveau micronutritionnel?
Ouais.
Au niveau micronutritionnel, ben, encore une fois, moi j'irai d'abord dans l'hygiène de vie, rétablir un bon sommeil, un sommeil profond. Au niveau nutritionnel, moi l'erreur que je vois tout le temps, mais parce que c'est aussi les femmes que j'accompagne, sportives athlètes, un déficit énergétique un peu chronique, donc une sous-nutrition. Mmh. Donc ne pas manger suffisamment par rapport à la dépense, on a tendance
même
à...
en calories.
On a tendance à sous-estimer. J'ai beaucoup de coureuses qui font de l'endurance, ultra-endurance, etc. Et en fait, pour manger suffisamment, il faut être un petit peu renseigné aussi. Et j'ai tendance à avoir des femmes qui se lancent dans des marathons, des semis, parce qu'aujourd'hui, c'est très démocratisé, ça paraît accessible. Mais en fait, les besoins du corps, ils augmentent. C'est des sports qui viennent surconsommer aussi les minéraux du corps. Donc il y a vraiment des adaptations à faire. Donc moi j'observe vraiment de la manger suffisamment au niveau de l'énergie, combler donc les carences et les défaillances de l'alimentation moderne. Et après moi j'ai géré sur régler les fragilités de terrain. Et bien souvent quand il y a une composante de stress, on se retrouve avec un écosystème intestinal qui est particulièrement appauvri. Des barrières intestinales qui vont être un petit peu en piteux état. Cette perméabilité intestinale chez les sportives, c'est vraiment un sujet central. Et soutenir le système immunitaire qui va venir décompenser au fur et à mesure de ces micro-agressions encore et encore. Et en fait, ce terrain inflammatoire qui s'installe de manière en fait chronique. Donc, régler profondément la cause, donc bien souvent système immunitaire, écosystème intestinal, et après venir apporter plus de l'entretien. Donc là, bien sûr, on pourra aller sur de la vitamine D, du magnésium, un peu l'incontournable, les oméga-3, moi je trouve que c'est un incontournable, surtout pour les sportifs au niveau du DHA. Il y a des études qui montrent que les sportifs surconsomment leur DHA. J'irai sur ça et les plantes adaptogènes, c'est très 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 intéressant. À individualiser, encore une fois, chaque profil et chaque besoin, mais super intéressant, ouais.
Bah d'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent commander pour la première fois, on vous offre un code promo de moins 10% sur votre prochaine commande. C'est le code podcast26 qui est valable jusqu'au 15 mars, donc profitez-en jusqu'à cette date. Tu penses à quelque chose d'autre, du coup, pour préserver, recharger ses batteries? Quelque chose qu'on n'a pas encore cité? Où on a déjà bien fait le tour.
Ouais, je pense que j'aimerais ajouter toute cette composante de travail, plus préparation mentale, travail du sens, la relation au sens qu'on met dans nos vies et dans nos actions. Et je pense que de la même manière qu'on a parlé de ça précédemment, c'est cette idée qu'on a l'impression qu'il faut faire et on va devenir. Mais c'est vraiment cette idée d'être avant d'avoir. C'est cette idée que on devient la personne qu'on souhaite être profondément, et il y a des actions naturellement qui vont en découler. Dès lors qu'on engramme et on s'incarne dans cette identité de sportif, ben ça va devenir une évidence d'aller au sport tous les jours, de manger de telle manière, de dormir de telle manière, de peut-être dire non à cette invitation à 2h du mat pour aller boire de l'alcool, etc. C'est cette idée que si les actions sont décorrélées d'une identité, ça va être, elles vont durer quelques semaines, voire quelques mois, et elles s'essouffleront. L'idée que je travaille avec toutes mes clientes, c'est qui est cette personne que profondément tu veux devenir et que tu t'excuses encore un peu d'être. C'est quoi ces facettes que tu ne t'autorises pas à être pleinement? Et quelles sont les actions en fait qui vont venir résonner avec cette identité, qui vont te paraître absolument naturelles. Et du coup, en lien avec ça, les outils que je trouve extrêmement puissants, c'est vraiment tout ce qui est visualisation, ou alors pour ceux et celles à qui ça parle, ça va être tout ce qui est plutôt les exercices d'écriture, de méditation. Mais c'est vraiment prendre conscience qu'en fait, on n'est pas juste un corps qui agit, mais on est avant tout ce sens de l'identité il régit toutes nos actions, il régit tout ce vers quoi on aspire. S'il n'y a pas de sens dans tout ce qu'on fait, en fait, c'est juste des zones de stress en permanence.
Qui s'ajoutent des couches qui se forment. Merci en tout cas d'avoir mentionné ça. Je pense que ça va aussi planter une petite graine chez moi, à me poser la question tout le temps. Est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça vaut le coup? Aussi les efforts qu'on mène. Donc merci.
Et il y a une dernière chose, je pense, qu'on n'a pas parlé. C'est vraiment ramener du plaisir, ramener du jeu dans ce qu'on fait. Et c'était ça, ce dernier point. C'est à deux sportifs égaux, le microbiote va différer entre un sportif qui réalise son sport dans la contrainte, la démotivation, le manque d'envie, et un sportif qui va faire exactement le même sport avec de l'envie, du plaisir, etc. En fait, on va pas venir sécréter les mêmes molécules et l'impact au niveau physiologique ne sera pas le même. Donc vraiment, allez dans vos zones de génie, de plaisir, de kiff en fait, et c'est là où vous allez devenir vraiment mais excellent. Et votre corps vous le rendra au centuple.
On va faire un tout petit détour dans le domaine du sport parce que j'ai appris que faire trop de sport, ça pourrait mener à une inflammation de bas grade. Faire trop de sport, ça pourrait aussi avoir des conséquences. Et comment on fait la différence entre un sport qui nous nourrit et un sport qui nous épuise ?
Alors, je pense qu'on est plus dans une épidémie de sédentarité, de pas assez de sport que faire trop de sport. Mais faire un sport qui nous épuise ou un sport qui nous nourrit, encore une fois, un petit peu comme ce qu'on avait vu précédemment, ça dépend de comment est mené le sport. Est-ce qu'on passe de tout à rien? Est-ce qu'on respecte une progressivité? Est-ce qu'on adapte les paramètres de la nutrition, le repos, etc. C'est vraiment... Et à quel moment on rentre dans une phase de désadaptation. On va venir discerner cette phase de désadaptation et c'est le moment où le stress qu'on demande au corps, donc la charge et le volume et l'intensité d'entraînement qu'on demande au corps, est aller au-delà de ce qu'il est capable de s'adapter. Et donc, il rentre dans une fragilisation plus que dans un renforcement. Mais du coup, je pense que c'est vraiment relatif à chaque personne. Mais moi, mon message, c'est vraiment que le sport, c'est un vecteur de confiance en soi. C'est quelque chose qui est vraiment ultra intéressant. Il y a des paramètres fascinants à explorer. Donc moi, mon message, c'est plus allez faire du sport, allez vous confronter à des zones d'inconnus, allez vous confronter à des disciplines que vous ne maîtrisez pas. Vraiment expérimenter. Et je pense que cette question du surentraînement, bien sûr qu'elle vient, mais si vous écoutez ce podcast jusqu'ici, vous avez déjà en tête que votre corps est votre guide et qu'il sait s'adapter si vous lui donnez les bonnes conditions.
Merci en tout cas pour ce rappel. Avant-dernière question, j'ai vu passer une vidéo sur Insta qui m'a fait rire, mais intérieurement pleurer. C'était vraiment marrant, surtout pour nous qui travaillons à Sunday. C'est l'influenceuse Becoming Brenda qui a fait une vidéo où elle dit « Je dois porter des poids plus lourds, je dois prendre de la créatine, je dois manger plus de protéines, je dois manger plus de fibres, je dois marcher, il me faut une veste lestée, je dois mettre de la crème solaire, je dois prendre du magnésium, je dois prendre du collagène. » Et en fait, c'est vrai que on donne plein de conseils tout le temps. Techniquement, c'est vrai, mais comment ne pas devenir neurotique avec tous ces conseils, toutes ces choses à changer? Comment tu fais, toi, avec tes consultantes?
Ouais. Ah, mais c'est super intéressant et je comprends complètement. Et cette vidéo, elle fait sens. J'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir avec ce syndrome de la parfaite élève qui me disent Elsa, j'ai déjà changé. Si ça, j'ai déjà intégré, nanana, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et en fait, moi, mon objectif, c'est vraiment de je suis vraiment investigatrice et on vient vraiment retracer la cause de la cause de la cause des manifestations, des symptômes et surtout de là où elle veut aller concrètement, c'est quoi sa demande, c'est quoi son objectif. Et moi, mon rôle, c'est de lui dire, ok, au regard de tes objectifs, au regard de ce tableau-là, en fait, si tu focuses ton attention sur ces 20%, t'auras les 100% de résultats. Et mon objectif, c'est de vraiment lui donner le comment sur tout ce diagnostic qui a été établi. Et bien souvent, on multiplie les actions. En fait, on disperse notre attention, notre énergie. On perd une énergie folle. Du coup, on se rajoute de la charge mentale, on se rajoute du stress chronique à quelque chose qui était supposé être bon et bien pour notre santé, à aller dans le sens de notre santé. Et en fait, c'est absolument délétère et contre-productif. Moi, mon avis, c'est vraiment parlez-en à un professionnel de santé qui vous dise en fait la cause, un professionnel de santé qui a cette approche systémique et globale de l'individu, parce qu'en fait, tout est lié, autant le système nerveux que le système digestif, que le corps, que le mouvement, que les relations sociales, etc. Tout est lié. Ce professionnel-là, là, va vous dire, ok, en fait, si tu te focuses et que tu mets ton attention sur ça les premières semaines, le reste va bouger. Et moi, c'est vraiment ma volonté d'accompagner mes clientes chaque semaine et de leur dire, ok, cette semaine, la mastication. Et déjà, dès la mastication, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses qui bougent, il y a beaucoup moins de gaz, de troubles digestifs, de troubles du transit, etc. Que la digestion, elle se fait mieux, qu'on dégonfle. Au bout de la première semaine, les femmes, elles dégonflent sur les bonnes associations alimentaires et la mastication. Il y a des résultats. Donc, c'est vraiment cette idée. Multipliez pas les actions.
On se focus.
Un petit peu dans l'inconnu, parce que c'est le meilleur moyen de juste tout lâcher et de se dire
j'en ai marre.
Ouais.
Bah, en tout cas, j'espère que ça a éclairé aussi les personnes qui nous ont écoutées jusque-là et un peu donné quelques solutions pour pouvoir un peu balayer les choses dont on n'a pas besoin non plus. Pour finir, je sais pas si tu le sais déjà, mais il faut que je t'apprenne que je suis une stalkeuse. Non seulement j'ai appris que c'était ton anniversaire aujourd'hui, à l'heure où on tourne, donc joyeux anniversaire.
Oh, merci.
Ça fait trop plaisir que de vouloir passer là avec nous. Je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur, plein de choses pour cette année, dans ta vie perso, dans ta vie pro. Et j'aimerais que ma dernière question ce soit... Tu te souviens de ce que tu as fait l'année dernière ?
Merci beaucoup. Alors, l'année dernière, c'était un anniversaire classique en famille, mais par contre, quelque chose de très, très symbolique, et du coup, ça faisait particulièrement sens de venir ici aujourd'hui, c'était qu'il y a 4 ans exactement, je vivais au Mexique et j'étais en train de faire justement l'ascension de l'Acatenango au Guatemala avec un ami qui est allemand. Et cet ami, c'était l'archétype de l'ingénieur qui déteste son travail et sa passion, c'était la cuisine. Il voulait ouvrir un restaurant de pizza vegan à Berlin. C'était un passionné. Et du coup, le jour de mon anniversaire, on était sur ce volcan. Et il m'avait fait la surprise de vouloir faire des pizzas avec le feu du base camp. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, je vais le retrouver dans le resto qu'il a ouvert.
Tu as fêté là, à Berlin
À Berlin, dans le resto qu'il a ouvert avec les vraies pizzas qu'il fait chaque jour. Donc, la symbolique est quand même pas mal.
Trop bien. Du coup, voilà la surprise.
C'est trop mignon.
Une petite attention, mais en même temps, c'est un petit jeu. En fait, comme je t'ai dit, j'étais une stalkeuse et je me suis rendu compte que l'année dernière, t'as publié un article de blog où dedans, tu donnais les choses que t'aurais voulu savoir avant ton anniversaire. Du coup, c'est pas un gâteau tout simple, c'est pas seulement un cheesecake au matcha. On va pas faire de achievement cake comme on peut en voir sur les réseaux en ce moment. On va se faire un wishing cake pour ce qu'on se souhaite cette année, parce que c'est aussi les 1 an de Healthwise du podcast.
Yes.
Donc on fait toutes les deux quelque chose. Et du coup, j'ai envie qu'on choisisse les 3 choses que tu as envie encore de te souhaiter cette année avec les conseils que tu as déjà donnés. Et moi, je vais en choisir 3 aussi pour HealthWise. Donc voilà, je te laisse découvrir.
Alors, cette année, je me souhaite l'alignement qui attire les bonnes personnes.
Moi, j'ai encore envie de rester curieuse et je me souhaite de continuer d'avoir envie d'explorer.
Je me souhaite d'oser briller et de réussir.
Comme j'ai dit tout à l'heure dans notre épisode, je vais continuer à me demander chaque jour ce qui me fait vraiment plaisir.
Et enfin, je vais continuer à faire du sport parce que j'aime mon corps et plus parce que je le déteste.
Et la dernière chose que je souhaite pour cette année, c'est de faire confiance à la vie et dans les processus et de jamais me trahir.
Yes!
Merci d'avoir participé à cet épisode. Je suis vraiment contente d'avoir passé ce temps avec toi et de passer ton anniversaire et l'anniversaire de HealthWise.
Oh, vraiment, happy birthday! Merci beaucoup!
Je voulais dire merci pour ces un an de HealthWise, de conseils. Nous, on te dit merci aussi. On va pouvoir te retrouver sur les réseaux sociaux avec toutes les infos en description. Pareil pour le petit code promo podcast26. Vous pourrez retrouver toutes les conditions. N'hésitez pas à envoyer cet épisode aux personnes qui en ont besoin. Parfois, même si on est conscient de ce qu'on est censé faire, c'est bien d'avoir un petit rappel de temps en temps et d'avoir peut-être un nouveau déclic pour avancer vers le mieux. Le prochain épisode, c'est une nouvelle saison. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis tout ce temps. Cette année, on fera un épisode par mois, le dernier mardi du mois. Mais je vous promets de revenir avec plus d'expertise, plus de débats et plus de conseils santé, bien sûr. À bientôt. La dernière question, généralement, c'est la question bonus. Toi, qu'est-ce que tu prends comme complément alimentaire ?
Alors, de la même manière, j'essaie d'en prendre le moins possible. Il y a quand même des incontournables avec le sport, mais magnésium, vitamine D, les oméga-3. Et ponctuellement, je travaille avec la barrière intestinale, donc ça va être tout ce qui est glutamine et plutôt probiotique, mais de manière ponctuelle et surtout quand je suis dans des phases de prépa de course, etc.
Et pas de plantes adaptogènes ?
Et de l'ashwagandha.
Ah oui, d'accord. T'as goûté l'ashwagandha latte ?
Non.
Ce sera peut-être la prochaine chose à faire.
Ouais, carrément. J'ai pas goûté, mais vous avez des produits très sympas que j'ai pas encore explorés.
Merci, Elsa.
Merci, Noémie.